Tous, bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. C'est une nouveauté de l'Église romaine qui a changé la date, puisque d'habitude, depuis des temps immémoriaux, on célébrait l'Épiphanie le 6 janvier. C'est une décision pontificale d'avancer la date. Je pense que c'est pour que les gens puissent assister à cette fête qui n'est pas chômée dans presque aucun pays, en France en tout cas. Et donc ainsi les gens peuvent se rassembler et continuer d'assister à l'épiphanie en grand nombre. Donc ben voilà, on se plie un peu. Ce n'est pas un changement de dogme, c'est simplement un changement de date. Les orthodoxes le feront dans une semaine. Fêteront et fêtent Noël pas en même temps que nous, voyez, c'est comme ça. L'essentiel étant de fêter la fête et de célébrer le Seigneur dans cette fête de l'Épiphanie. Pardon. Bon, c'est la grande fête, évidemment, de ce que Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour les Juifs, mais il nous est révélé par là, dans saint Matthieu, qui est celui qui a été le plus proche de la famille, puisque Matthieu faisait partie des apôtres immédiats recrutés par Jésus. Donc il s'est attaché à raconter ce que lui seul est en train de raconter sur la naissance de Jésus, donner quelques précisions intéressantes. Oui, des rois mages, c'est toujours, je dis toujours, notre religion, c'est la religion du miracle. Les prophéties avaient annoncé que le Messie devait naître à Bethléem. Bethléem, en hébreu, Beit Lechem, c'est la maison du pain. Donc ça préfigure celui qui va se donner depuis 20 siècles, dans la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire déjà, on sait que c'est dans la boulangerie du Seigneur que ça se passe, et donc les prophètes avaient précisé que c'est dans cette ville de Juda, de la descendance de David, que devait naître le Messie, et beaucoup de Juifs, d'ailleurs à l'époque, avaient fait des calculs qui annonçaient l'arrivée imminente du Messie. Donc Jésus arrive, la Providence les met dans une grotte ou dans une maison, précise saint Matthieu, Beit, c'est toujours la maison. Donc on doit aujourd'hui remarquer que la religion chrétienne qui succède à une religion qui était faite pour les Juifs en tant que peuple, non pas, on dit le peuple élu, c'est pas le peuple élu, en réalité en hébreu c'est le peuple choisi. Un peuple choisi pour une raison simple, l'universalité qui était promise aux hommes à travers cette élection. Et Jésus est vraiment l'incarnation de cette universalité qui est manifestée aujourd'hui par le fait que le Seigneur, dans sa sainte providence et par les miracles, prévient des rois étrangers dans des songes et dans des prophéties qui leur sont propres pour leur dire qu'un enfant qui va être très important pour le salut du monde et pour l'explication de la raison profonde de l'univers et surtout montrer visiblement le visage et la parole de Dieu et le souffle de Dieu, comme c'est dit d'ailleurs dans le Coran, qui ne reconnaissent pas le Messie comme nous, mais qui reconnaissent Jésus comme un prophète, eh bien, ces étrangers viennent et suivent une étoile qui apparaît, et l'apparition de cette étoile étrange, puisque ce sont des gens qui connaissent bien le ciel, comme on le connaissait dans l'Antiquité, peut-être beaucoup mieux que nous d'ailleurs, et ils suivent cette étoile, et ça les conduit de différentes régions, ça les conduit jusqu'à Jérusalem, et Jérusalem, évidemment, quand ils débarquent, quand on voit des rois débarquer avec leur entourage, ça bruisse de tous les côtés, et donc le roi Hérode en est prévenu, parce que les monarques sont toujours informés de ces notables qui viennent, et il leur demande gentiment qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Il dit, ils sont venus voir le roi des Juifs, imagine la tête de Hérode, évidemment, dont le trône était quand même un trône qui avait été plus ou moins usurpé par les Asmonéens, et donc il s'affole, et très gentiment, il demande l'information à qui ? Au curé du coin. Le curé du coin dit, il est né à Bethléem, dans cette petite cité de la maison de David, où se situe la tribu de Juda, l'essentiel de la tribu, les restes de la tribu de Juda. Et donc, allez le voir, et puis revenez. Alors, à ce moment-là, quand ils sortent de Jérusalem, l'étoile ayant disparu, elle réapparaît à la sortie de Jérusalem, et ils vont à Bethléem, qui était une petite portée de marche, mais avec des chameaux et tout le bastringage des rois, j'imagine qu'ils arrivent là, et ils voient un enfant dans une crèche, l'étoile, ce moment-là, s'immobilise sur Bethléem, et ils voient le Jésus, et ils l'adorent. C'est donc la manifestation que le salut n'est pas offert que aux Juifs, il est offert, c'est l'universalité du salut que Jésus a proposé. Jésus a proposé de sauver l'humanité, tous les hommes de bonne volonté, dans son message qui va... Il a travaillé pendant des années comme avec son père, évidemment, avec Saint Joseph. Et là, il proclamera l'évangile des béatitudes et l'universalité du salut, c'est-à-dire que le salut est aussi pour les gentils, c'est-à-dire pour nous, qui sommes très gentils. Voilà. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte de l'encens, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, l'or, c'est évidemment... C'est qu'il faut y mettre au service du Christ l'or du monde, c'est-à-dire cet or qui aujourd'hui sert à une panique mondiale, comme nous le voyons aujourd'hui, c'est-à-dire la course aux richesses du monde qui génèrent les guerres dont nous entendons parler. Jésus les avait prévu ces richesses pour le bien-être des peuples, évidemment. Et d'ailleurs, je lisais hier Montesquieu qui dit... Le christianisme est vraiment la seule religion qui propose le destin de l'homme dans l'éternité, mais qui en même temps propose le partage des biens de ce monde avec les pauvres. Et donc c'est pendant 20 siècles, nous avons 19e ou 18e siècle ou avant, eh bien, au moment du sommet du christianisme, c'est là que sont fondés tous les hôpitaux pour les pauvres, que sont fondés beaucoup de congrégations qui s'occupent. Et l'Église, qui à ce moment-là est reconnue par les souverains, eux-mêmes se projettent dans l'éternité, pas simplement la temporalité, ils savent qu'ils seront soumis à la loi divine, et donc il y a une sorte de marge, et que l'Église fait des efforts pendant des siècles pour s'occuper des pauvres, car Jésus avait dit « vous aurez toujours des pauvres ». À partir d'un certain moment, les choses ont été remplacées et le péché d'Adam, qui avait été celui qui avait choisi d'être égoïste et de chercher le plaisir avant tout et de se couper de Dieu dans la promesse qu'avait fait le démon de lui donner des jours heureux, se trouve enfermé dans le temps. Et aujourd'hui, nous avons la même chose. Nous avons ceux qui continuent de chercher le royaume de Dieu, qui croient à la vie éternelle annoncée par Jésus, et ceux qui se désintéressent du problème de Dieu et qui s'enferment dans le plaisir et la recherche des richesses de ce monde, enfermés dans le temps. C'est tout le problème de la vie qui est évoqué là. Donc l'or, voyez, nous devons mettre notre argent au service de Dieu, si possible, comme nous pouvons, dans le partage de la charité, qui est demandée donc à travers ce symbole incroyable. L'encens, c'est aussi la louange qui revient à Dieu. On encensait partout, on encensait les idoles chez les païens, mais un encens aussi dans le temple de Jérusalem. Il y avait on brûlait en permanence de l'encens dans la présence de Dieu, ce qu'on appelait la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu qui résidait dans le temple de Jérusalem, lequel temple est aujourd'hui détruit. La Shekinah s'est transportée dans deux endroits. Elle s'est transportée dans les tabernacles des églises, où le pain de Bethléem est vivant pour nous. Jésus nous a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est moi qui le reçois ». Donc on a compris ça. Et ça, c'est la première présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est aussi la présence dans notre cœur. C'est-à-dire que nous devons devenir, nous, le temple du Saint-Esprit. Et quand nous recevons l'Eucharistie, ou que nous pensons, même pour ceux qui ne consomment pas l'Eucharistie, puisque le Christ a donné l'Eucharistie pour le consommer. Prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous, c'est ce qui est dit dans l'Écriture sainte, évidemment. À ce moment-là, notre sanctuaire intérieur devient le trône de Dieu et Jésus s'installe dans ce trône. Et si nous sommes avec la grâce de Dieu, nous communiquons avec la grâce sanctifiante. Si nous prenons injustement, sans faire attention, le corps et le sang du Christ, à ce moment-là, eh bien, nous stérilisons cette présence de Dieu qui est quand même là, mais Jésus ne peut pas opérer la grâce sanctifiante et la vie spirituelle s'étiole chez certains et peut-être même devient terrible parce qu'il peut y avoir aussi une condamnation, puisque ça nous est dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang dignement, mange et boit son propre jugement. Ça veut dire que c'est nous qui opérons dans cette présence du Christ l'ouverture de la grâce sanctifiante par notre adhésion au message du Christ, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Voilà un peu ce qu'est cette louange. Et donc, nous devons vénérer le Seigneur. Et nous avons, Matthieu nous a lu ce magnifique passage. Bon, ce n'est pas plus beau que le livre d'Isaïe dans ce qui nous est dit. Lève les yeux sur, tout autour et vois. Ils se rassemblent, ils viennent vers toi, ils viennent de loin. Alors tu verras et tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. La dilatation du cœur, c'est-à-dire l'enthousiasme qui fait que nous devons nous tourner vers Dieu en agrandissant notre cœur. Ton cœur frémira et se dilatera. Et il nous est dit, les nations ainsi marcheront vers ta lumière, c'est-à-dire vers la grâce du Christ, et les rois vers la clarté de ton aurore. Pour ceux qui ont suivi ce chemin dont parlait Montesquieu, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le christianisme et le Christ, et ceux qui n'acceptent pas le christianisme et n'acceptent pas le Christ, et marchent enfermés dans l'espace-temps avec les empires qui s'effondrent, et les faux plaisirs que propose le monde, c'est-à-dire la pléthore du plaisir qui empêche l'âme de s'enfermer dans l'attention, c'est-à-dire l'attention au mystère profond de notre existence. Je dis tout le temps les miracles de la création, les miracles de la vie inexplicables, quand on voit dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, la complexité et la magnificence de la création de Dieu, d'une infinie complexité que la science essaie de comprendre, mais que nous n'arriverons jamais à totalement posséder, car il y a toujours, c'est un peu Sartre le disait, il y a toujours l'en-soi, c'est-à-dire l'être même, et le pour-soi, c'est-à-dire la manière dont nous abordons l'être, c'est-à-dire à travers nos filtres. Donc on est dans un entonnoir de réduction chaque fois de la réalité, et Montesquieu dit, oui, il faut faire très attention à ceux qui, il critique en cela le XVIIIe siècle et l'esprit des Lumières, Montesquieu déjà, et il dit, voilà, il y a deux manières de voir, hein, où on suit le christianisme, et ce qui est promis, c'est l'ouverture sur la vie éternelle, c'est-à-dire on ne meurt pas, et on vit avec Dieu. Et si jamais on se détourne de christianisme, on arrive dans ce qu'il a conçu comme étant la République, et on arrive à ce moment-là à l'athéisme, et souvent à lutter contre le christianisme pour enfermer l'humanité dans l'espace-temps avec les plaisirs qui sont proposés mais qui n'ont qu'un temps. Et donc il n'y a pas de solution, ceux qui meurent, meurent. Comme disait un curé à qui on demandait « Qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé, quand on est mort ?»« Quand il mourt, il mourt. » Il y a des réponses comme ça de temps en temps, même chez les curés, voyez. Et donc, il ne faut pas s'affoler. Nous voyons que nous devons faire vibrer dans notre cœur la louange à Dieu dans l'encens. Bon, c'est pour ça que dans le sens abondamment, dans nos saintes liturgies, évidemment, j'explique parfois le sens de ces encensements. J'ai expliqué pourquoi l'offertoire, on fait trois croix, trois croix à gauche, une croix à droite, pourquoi on encense les icônes du Christ, la Sainte Trinité, puis ensuite à droite, il y a Saint-Michel Archange. On encense aussi ceux qui assistent à la messe dans l'invisible, c'est la Sainte Trinité évidemment, elle est l'essence même de la chose, mais à droite, j'encense toujours pour Saint-Michel Archange, parce que ce sont les légions angéliques, les trônes, les dominations, comme on le dit dans le canon. Ce sont ceux qui sont dans l'invisible et qui assistent, évidemment, à toute liturgie, parce que c'est la liturgie du ciel qui se vit sur la terre avec chaque prêtre, en union avec l'Église mystique du Christ, c'est-à-dire tous ceux qui vivent la Sainte Eucharistie ce jour-là. Et puis ensuite on encense les saints, parce que les saints sont ceux qui sont au ciel. Alors il y a ceux du ciel et de la terre, comment il faut toujours en tenir compte, ils sont toujours là, parce que notre Église est l'Église du miracle, et que la grâce sanctifiante chez les saints, elle continue dans ce qu'on a appelé la communion des saints, donc la Sainte Vierge, que moi j'annonce corédentrice de toute grâce, bien que Vatican se soit prononcé contre, ils ont oublié cette parole de Saint Paul très importante, qui dit dans l'Épître aux Romains, je vis en moi ce qui a manqué aux souffrances du Christ pour son service aujourd'hui. Voilà ce que vit Saint Paul. Donc ça veut dire que si nous sommes dans la croix partagée du Christ, nous participons d'une certaine manière au mérite. C'est que le Christ a souffert sur la croix, lui qui était l'agneau immolé pur, mais nous-mêmes qui sommes les pécheurs, par miséricorde, Dieu nous permet aussi de prier dans la communion des saints, c'est-à-dire d'obtenir la grâce sanctifiante pour nous et pour ceux qui pourraient ne pas la mériter. Et ça, c'est le travail de l'Église, de propager la grâce sanctifiante dans le monde et de provoquer le miracle du Christ qui appelle les âmes. C'est pour ça qu'on voit des musulmans qui se convertissent, on voit des gens qui pratiquent les avortements se convertir. Et donc, ils sont touchés par la grâce à cause de ces souvent ces mystiques. Et le sommet de ce qu'on peut dire étant la corédemption, Sainte Vierge, toute pure, elle a souffert évidemment au pied du calvaire, donc elle a vécu évidemment quelque chose d'effrayant et de totalement offert, qu'elle savait déjà, puisqu'on nous dit dans l'Écriture qu'elle méditait ces choses-là dans son cœur, elle savait, elle connaissait les 40 prophéties concernant le Messie, en particulier le Messie souffrant, on voit donc que les saints vivent la corédemption et les personnages étranges qui affolent le monde. Le monde, évidemment, qui ne se tourne pas vers Dieu, ce sont les saints mystiques, les stigmatisés, par exemple, Padre Pio, qui pendant 50 ans vit la passion du Christ. Si jamais il n'y a pas co-rédemption à travers ces souffrances, on est dans un cas de dinguerie totale, c'est-à-dire d'un psychopathe. Et sinon, du point de vue de Dieu, c'est la co-rédemption parce qu'il a obtenu beaucoup de grâce. Il avait le don de voyance, il a confessé toute sa vie, il a obtenu des miracles éclatants dont certains sont étonnants, puisqu'on a vu des gens qui voyaient sans avoir de rétine, qui ont vécu pendant des années et qui voyaient sans rétine, les miracles. La co-rédemption qui s'obtient et la grâce sanctifiante peut déborder à ce moment-là dans l'amour de Dieu, dans le cœur, dans le trône de ces fidèles qui se donnent pour mission et qui acceptent de cette co-rédemption et acceptent la souffrance pour pouvoir propager la grâce sanctifiante dans les âmes. C'est magnifique. Bon, je m'arrête là pour ça, pour l'encens. Et la myrrhe, c'est une plante qui pousse en Orient, qui pousse un peu partout. Et la myrrhe, c'est une plante qu'on utilisait pour la purification de l'eau. C'est une plante qui est une javelle naturelle. Et donc, quand on voulait libérer un puits des microbes et des miasmes, quand un puits était plus ou moins abîmé, eh bien, on précipitait de la myrrhe à l'intérieur et donc l'eau se purifiait par là. Ça veut dire que le Christ est le purificateur et il porte cette myrrhe comme un symbole étonnant de ce que le Christ purifie les âmes, c'est-à-dire les âmes abîmées par le péché originel de ce monde qui continue aujourd'hui à vivre le péché originel dans ses conséquences pour ceux qui se détournent de Dieu, ainsi que l'a fait Adam, et l'ont fait Adam et Ève, nos premiers parents. Eh bien, le Seigneur purifie et que son sang qui a été versé sur la croix est le grand purificateur des âmes qui le consomment, parce que cette purification, c'est tout simplement l'amour du Christ qui vient sur nous dans une souffrance acceptée et offerte à Dieu comme un sacrifice qui détourne la justice de Dieu vers sa miséricorde et qui fait que le Seigneur, toujours bienveillant, attend toujours les âmes qui se tournent vers lui avec une infinité de miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu est infinie, à condition, c'est le cas évidemment du pardon des péchés, que le retour de la grâce sanctifiante se fait par le repentir et parfois la réparation des choses que nous avons abîmées dans notre espace-temps. Et la conversion est essentielle pour conserver la grâce sanctifiante. Donc ça, c'est le travail de la myrrhe et c'est pourquoi ces rois mages offrent la myrrhe. Vous voyez, tout ça est magnifique. C'est tout le sens de l'épiphanie, et il y a le sens aussi de l'humilité. Ce sont les rois de ce monde, c'est-à-dire les possédants, qui viennent voir là le trésor d'humilité de cette famille qui n'a pas trouvé d'auberge et qui vit dans une grotte ou dans une maison très pauvre, où Saint Joseph a été obligé d'étendre son manteau pour fermer la porte d'entrée à cause du froid, vous voyez, qu'il a balayé. Il y a l'âne et le bœuf réchauffés par des animaux, c'est-à-dire réchauffés dans une grotte, non faite de main d'homme en partie, et une partie faite en main d'homme, parce qu'il y avait une petite extension, nous révèle Maria Valtorta, qui fermait la grotte. Et là, c'est la création de Dieu, plus la création de l'homme, qui se verse dans l'humilité d'une crèche où le Seigneur apparaît dans une mangeoire pour animaux. On ne peut pas faire plus modeste. Ben ça, c'est l'humilité à laquelle on est invité déjà par la présence du Christ. Voyez, donc, nous devons nous-mêmes accueillir dans notre propre crèche intérieure, puisque je vous parlais du trône de Dieu qui s'installe chez nous. En réalité, nous devrions faire de nos cœurs une crèche, c'est-à-dire un lieu de l'humilité, parce que dans le rosaire, dans les 12 mystères du rosaire que nous récitons le plus souvent pour les chapelets, un mystère joyeux, le premier mystère, c'est l'humilité. C'est dans l'humilité de la crèche que démarre toute vie spirituelle. Là où il y a l'orgueil, eh bien, il n'y a pas de vie spirituelle. Et donc, la grâce sanctifiante ne s'installe pas. Le deuxième mystère, je le redis encore, c'est la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. C'est la charité. Si on n'a pas la charité, si on n'a pas la bienveillance à l'égard de celui que l'on rencontre, la grâce sanctifiante s'éteint et le Christ ne peut plus agir en nous. Le troisième mystère, je m'arrêterai. Non, je vais aller jusqu'au bout du mystère joyeux quand même. Le troisième mystère, c'est la crèche de Noël, c'est-à-dire la providence, la confiance dans la providence. Ils sont partis, vous vous rendez compte, la Sainte Vierge était en voie d'accoucher, donc sur une âne, vous imaginez le confort de l'époque. On n'est pas du tout chez la Reine d'Angleterre, dans les magnifiques voitures de Rolls-Royce de la Reine d'Angleterre, sur une âne. Et Saint Joseph tenant la bride, la fameuse bride d'ailleurs, dont on a évoqué il y a quelques jours, qui est un peu étrange parce qu'on ne connaît pas la source de cette bride, mais il se transmettait dans la maison de David une bride, génération après génération. Elle servira pour l'âne qui allait à Bethléem, et elle servira ensuite pour l'âne que Jésus, sur lequel Jésus sera transporté pour entrer dans Jérusalem avant d'être crucifié, mais acclamé par la foule. Cette bride qui est le symbole de l'âne, c'est-à-dire de... Jésus monte sur l'âne qui n'a jamais été monté, et la vieille ânesse est derrière. Mais c'est le petit ânon de Jésus que Jésus choisit, celui qui n'est pas monté, qui préfigure l'Église depuis que nous sommes dans une Église fondée par le Seigneur lui-même avec ses 12 apôtres et les lois qui ont été confiées, évidemment, aux Églises apostoliques. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Et donc, l'humilité. Et la confiance dans la providence. Ils font confiance, ils s'en vont, et le Seigneur procure ce magnifique endroit qui reste célèbre aujourd'hui, depuis 20 siècles évidemment. On célèbre d'ailleurs la liturgie, hein, on connaît l'endroit à peu près où Jésus est né. Et puis le quatrième mystère, je le raconte puisque on a 2 minutes encore, le quatrième mystère, la purification de la Vierge Marie, c'est la demande que nous faisons au Seigneur sur le trône de notre cœur, dans notre crèche intérieure, de nous permettre de nous purifier, c'est-à-dire c'est l'aide que nous opérons aux propositions d'amour de Jésus-Christ, de sa grâce sanctifiante, de nous mettre dans le diapason de recevoir la grâce, c'est-à-dire notre transformation intérieure. Si on ne peut pas toujours le faire avec succès, on le demande par grâce. Et ça, c'est le travail de l'Église, de ceux qui prient, des moines qui sont dans les monastères, des ermites qui ne voient personne et qui prient. Nous obtenons, par cette puissance invisible de l'Église, le miracle de cette communion des saints. Et à ce moment-là, parfois, quand nous ne le méritons pas, nous voyons tout d'un coup des gens tomber et se convertir. Oui, c'est magnifique. Alors, et le dernier mystère, c'est Jésus retrouvé dans le temple. Et là, ils passèrent 3 jours à le chercher. Évidemment, il est déjà très précoce, il connaît les Écritures, parce que la Sainte Vierge lui a bien appris, évidemment, toutes les Écritures le concernant. Et il épate certainement Hillel et Gamaliel meurt, mais Gamaliel se convertit à la fin de sa vie. Il arrive aveugle chez la Sainte Vierge à Béthanie et Saint Jean qui vivent là, dans cette maison où ils vivent pendant des années. Et il arrive la nuit avec un serviteur, il est aveugle et il se convertit, il demande le baptême. Et la Sainte Vierge et Saint Jean l'envoient chez Saint Jacques avant qu'il soit martyrisé et qu'il le baptise. Vous voyez, bon, c'est le travail de... Comment se fait ce travail? La réflexion, certainement, qui dure très longtemps chez ce vieux savant juif qui était très honoré pour sa science. Et le Seigneur lui avait dit, tu verras, à un moment, les prières tremblaient, le poil du temple se déchirait. Mais il a mis des années quand même à accepter d'abandonner la vieille idée judaïque que le Seigneur n'est venu que pour les juifs. Et il comprend que le salut universel demande le baptême. vie avant de mourir. C'est magnifique. Mais c'est la fidélité à la parole de Jésus, c'est-à-dire que nous devons chercher le Seigneur tous les jours et ne pas abandonner ce sentier où Saint Joseph et la Sainte Vierge, avec angoisse, le cherchent pendant 3 jours. Donc nous avons aussi des marges, mais il faut quand même ne pas abandonner l'idée de la recherche de Dieu, parce que certains, vous voyez, dans ce que je vous disais, entre la différence entre le point de vue du monde et le point de vue du chrétien, eh bien, certains ont abandonné le chemin. Voilà. Et quand on ne transmet pas le christianisme, on transmet le monde, et là, les démons sont à l'œuvre et sont devenus très discrets pour faire le travail, et donc il faut repérer, avoir les repères, c'est-à-dire tenir notre lampe allumée. Et là, on pense aux vierges folles, celles qui attendent le marié, elles demandent aux autres de l'huile, elles n'en ont pas assez, et pendant qu'elles vont chercher l'huile dans les magasins, c'est-à-dire dans les magasins du monde, l'époux arrive, et quand elles reviennent, la porte est fermée. Elles ont oublié de préparer le chemin, elles n'ont pas tenu leur lampe allumée parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Or l'huile, c'est l'absence de cette recherche de ceux qui n'ont perdu l'attention vers le Seigneur et se sont tournés ailleurs, livrés à l'espace-temps, leur vie éternelle est compromise. Donc, prions aujourd'hui ces rois mages qui sont venus de nous inculquer vraiment le sens de tous ces symboles magnifiques qui nous sont donnés à l'épiphanie. Aujourd'hui, nous prions pour les enfants avortés, puisque je suis encore dans la messe pour les enfants qui sont avortés dans le monde. Le Seigneur en prend soin, évidemment, mais surtout pour le pardon de ceux qui se repentent. Prions pour que beaucoup se repentent de ces choses qui sont, pour les chrétiens, criminels. Il faut le dire, c'est le point de vue de Dieu, n'accepte pas ce point de vue qu'on essaie de nous faire admettre aujourd'hui avec l'euthanasie des personnes âgées pour faciliter le départ. On finira par tuer les gens, évidemment, comme on le sait, parce que les voies de ce monde, sous le couvert d'une charité, se détournent des chemins de Dieu et les abus arrivent. Et on voit à ce point les bruits de guerre et tout ça. On finit par tuer son voisin et pour lui prendre quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est le pétrole qu'on cherche, donc on va enlever des chefs d'État, on arrive là avec une justification, et on justifie évidemment tout ce que fait le monde, mais les chrétiens doivent rester vigilants de ne pas perdre la voie de cette grâce et rester fidèles au christianisme. Donc nous prions pour que le Seigneur convertisse ceux qui font, et s'ils sont convertis et qu'ils payent la note de la purification, pour que le Seigneur envoie sa lumière et sa paix et sa douceur à ces âmes qui attendent le pardon de Dieu, qui ont obtenu le pardon de Dieu, mais qui ont une petite note à payer selon la volonté du Seigneur lui-même. Mais c'est toujours un acte de charité de Dieu. Nous restons fidèles au chemin du Christ. Voilà, comme ces rois mages qui viennent de loin, et on se trimballait assez facilement à l'époque, contrairement à ce qu'on croit, on cabotait beaucoup, il y avait des navires partout, il ne faut pas croire qu'on vivait à l'époque des cavernes. Non, ils se trimballaient, mais ils venaient de loin. Si certains venaient d'Éthiopie, comme on l'a dit, vous imaginez le trajet. La fidélité à cette étoile et à ce miracle qu'il voit, et sachant qu'il va y avoir un roi qui surgit, qui va gouverner le monde du point de vue de Dieu, mais pas le point de vue du Seigneur, l'a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Les mages se sont mis en route, donc c'est une invitation pour nous aussi d'aller à la grotte de Bethléem et de trouver le Seigneur et de l'inviter à venir dans notre crèche intérieure où nous essayons de vivre ces mystères joyeux dont je vous parlais, dont la Sainte Vierge a dit dans tellement d'apparitions, récitez mon chapelet. C'est humble, mais c'est quand même porteur de la grâce, et c'est l'ouverture souvent de la grâce sanctifiante pour beaucoup, parce que la Sainte Vierge l'a dit à maintes et maintes reprises. Voilà. Nous prions aussi pour Marie, qui est à l'hôpital. Nous prions pour Sébastien, qui a des gros problèmes de santé. Nous prions pour Daniel, qui a des gros problèmes de santé, et tous ceux que nous connaissons, qui sont dans les difficultés de la vie, pour que le Seigneur, eh bien, opère les miracles à travers nos demandes, si c'est nécessaire, et c'est pour le bien de ces âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.